Nous allons parler aujourd'hui des aviateurs de la Grande Guerre, et pour ce faire, on peut partir du film de Tony Scott, sorti en 1986, Top Gun, qui lance véritablement la carrière de Tom Cruise, en le campant en pilote de chasse, évidemment romantique, fidèle et héroïque. Il incarne à ce titre parfaitement l'image d'Épinal, du Chevalier du Ciel, qui brave les éléments comme les ennemis dans une geste des plus épiques. Cette image, elle est directement héritée de la Première Guerre mondiale, qui véritablement marque les débuts de l'aviation militaire dans le contexte d'une guerre impersonnelle, moderne et meurtrière par bien des aspects. Quelques figures héroïques y émergent, différentes du poilu qui, lui, est souillé par la boue des tranchées. Là, les aviateurs se présentent comme des modèles héroïques d'un genre tout à fait nouveau. Mais leur réalité est plus multiforme que l'image du Chevalier du Ciel qui a survécu à la guerre. Dans cette matrice de l'aviation militaire, qui oppose les nations les plus industrialisées du début du siècle, d'importants progrès techniques et tactiques sont réalisés pour transformer l'appareil, autrefois innocent, en machine de guerre. Les différentes spécialités se mettent en place et dans ce qui devient une cinquième arme, avec des expériences de guerre souvent très différentes de celles des poilus dans les tranchées. Et ainsi, ces quelques chevaliers du ciel deviennent hyper médiatisés, et il paraît intéressant pour nous d'observer la manière dont s'est constituée cette image emblématique du pilote et d'essayer de comprendre comment celle-ci nous est parvenue par la suite. Surtout, puisque l'on s'intéresse à l'aviation militaire de 14-18, dans quelle mesure cette représentation des aviateurs reflète-t-elle la réalité des aviateurs de la Grande Guerre ? À cette fin, nous allons revenir sur la formation de l'aviation comme arme fondamentalement nouvelle dans une guerre moderne qui lance les masses les unes contre les autres. Cela nous permettra de comprendre comment ces hommes, en majorité des civils, deviennent des aviateurs et ce que cela implique pour eux. Enfin, de cette compréhension des différentes facettes de l'aviation militaire en formation, nous pourrons mesurer la différence et la distance entre notre vision des Chevaliers du Ciel et la réalité de l'expérience combattante des pilotes de la Première Guerre, mais aussi pourquoi nous conservons aujourd'hui encore cette image héroïque. L'aviation, c'est une arme nouvelle dans une guerre moderne. Avant la guerre, l'aviation c'est un sport et qui permet à l'homme de réaliser le rêve icarien. Enfin, l'homme peut s'élever dans les airs et conquérir le dernier domaine qui lui résistait. Alors, il reste encore les fonds sous-marins et à l'époque, il restait encore l'espace. Mais c'est une nouvelle possibilité qui est offerte à l'homme de s'élever dans les airs. Et on voit là la puissance du mythe dynamique qui va pousser les hommes à dépasser ses limites, celles qu'il connaît, pour s'élever dans les airs et mettre au point des prototypes qui lui permettent d'avancer et de progresser dans des domaines scientifiques. Dans ce contexte, on a une culture aéronautique qui est en train de se former. Avant l'avion, il existait déjà les aérostats, ce qu'on connaît mieux sous le nom de montgolfière aujourd'hui, qui, dès le XVIIIe siècle, avaient permis à l'homme de s'élever dans les airs. Donc ça fait déjà un siècle qu'on commence à voir émerger dans la culture de nombreuses photographies et représentations de l'air et de ce que les hommes peuvent y expérimenter. Et par exemple, pour juste mettre en perspective cela, le grand photographe Nadar dilapide sa fortune dans l'achat d'une montgolfière géante et est caricaturé en 1863 en Nadaréostat pour mieux symboliser sa passion pour cette chose de l'ère nouvelle. Donc l'aviation apparaît dans un contexte déjà favorable à la chose aérienne. Et donc, à la fin du 19e siècle, alors les dates varient en fonction des historiographies. En France, on retient souvent la date de 1890, qui serait le premier vol par Clément Ader d'un avion mécanique, mais on n'a pas forcément la preuve que cela se soit passé. Donc, plus généralement, on retient les premiers vols des frères White, et notamment à partir de 1905, le premier vol public d'un avion dans les airs. Dans ce contexte, on a beaucoup de cartes postales et de journaux qui circulent, qui parlent de cette culture aérienne en formation et qui attestent de ces progrès humains réalisés. Et on a un véritable enthousiasme populaire qui se met en place à cette époque, avec des aéroclubs qui sont créés, des cercles élitistes et savants qui vont permettre à des pionniers, des héros de l'ère nouveau, des figures à la fois savantes et sportives, de réaliser des exploits publics qui sont suivis, notamment lors de grands meetings qui rassemblent les foules et qui permettent à l'ensemble du public de se familiariser à l'ère. Ainsi, à partir de la fin des années 1910, on a de grandes réalisations qui sont opérées publiquement, notamment, pour ne retenir que les étapes les plus célèbres, en juillet 1909, Louis Blériot qui traverse la Manche, événement international s'il en est, et le mois suivant, à Reims, la semaine aéronautique de Reims qui rassemble 1 million de visiteurs, réunit plus de 40 appareils sans accident, chose exceptionnelle à l'heure où les avions sont encore des instruments relativement précaires, c'est souvent constitué de bois, le métal y est très rare, et ce sont des toiles, donc c'est extrêmement fragile. Là, une semaine sans accident qui réunit plus d'un million de personnes et qui va marquer les débuts de l'aviation militaire, puisque la France, le haut commandement militaire, très impressionné, va acheter ses 5 premiers avions à ce moment-là, à l'issue de cette semaine aéronautique de Reims. Donc un moment tout à fait essentiel en ce début de siècle, qui va trouver des continuations dans la Première Guerre mondiale, puisque ces pionniers qui se donnaient à voir avant la guerre vont être parmi les premiers à participer à la guerre aérienne. Un exemple de cela, c'est Roland Garros, qui traverse la Méditerranée en 1913 et qui devient un pilote de guerre très suivi et très célèbre, au même titre que d'autres pionniers comme Adolphe Pégou, Eugène Gilbert ou le Belge Jan Olieslager, qui sont tous représentés avant la guerre comme des fous volants, mais donc des sportifs intrépides qui méprisent la mort et qui vont donc s'adapter d'autant plus facilement à ce contexte militaire dans la guerre, puisque soumis au danger permanent dans la guerre, avant la guerre, vont aussi retrouver ce danger dans la guerre. Dans la Première Guerre mondiale, l'aviation devient une arme. Dès avant la Première Guerre, en réalité, des bombardements ont déjà existé. Les Italiens sont très fiers de rappeler que contre les Turcs en Libye, en 1911-1912, les premiers bombardements ont été réalisés. Également, les deux guerres des Balkans en 1912 et 1913 vont voir également intervenir quelques avions. Mais il n'y a pas véritablement d'évolution offensive et les observateurs sont relativement déçus par l'emploi de cette arme dans la guerre. Et somme toute, cela met en jeu un nombre relativement faible d'avions. C'est véritablement avec la Première Guerre que va intervenir la massification et le passage de l'aviation en tant qu'arme. En 1914, à l'entrée en guerre, l'Allemagne a 232 avions, la France 162, la Russie 190, entre 100 et 50 pour l'Italie et le Royaume-Uni, donc c'est un nombre infime qui n'a aucune mesure avec ce que l'on va voir mis en place pendant la guerre. L'aviation, elle sert d'abord, et c'est sa première utilité dans cette guerre, à la reconnaissance et au réglage. Les premières missions de l'aviation va être de reconnaître les lignes ennemies, de passer par-dessus l'ennemi pour aller observer les mouvements de troupes, éventuellement l'évolution des infrastructures et prendre des informations prises avec relativement de précaution d'abord par l'état-major puisque les techniques d'observation sont en train d'être mises en place. Néanmoins, elles vont s'avérer très utiles au commandement. Pour les Allemands, notamment pour gagner la bataille de Tannenberg, vont s'avérer décisives. Pour les Britanniques, résister lors de l'offensive de Mons et en France, dans la Marne. Et les différentes informations glanées lors de ces opérations et l'intérêt qu'elles ont constitué pour l'état-major dans ces opérations vont convaincre les états-majors d'insister et d'investir pour cette arme et notamment de développer les liens de l'aviation avec l'artillerie pour ce qu'on appelle le réglage d'artillerie, c'est-à-dire que pour pouvoir tirer un obus, il faut savoir où le lancer et dans cette perspective, l'aviation va être très utile pour repérer les lignes ennemies, mais aussi donner des indications aux tireurs, est-ce qu'on est à côté, trop loin, trop près. Et dans cette perspective, c'est véritablement à ce moment-là que l'aviation devient décisive avec des biplaces, avec un pilote qui va piloter l'avion et un observateur derrière qui va donner des indications à l'artillerie. Alors d'abord, ça se fait de façon relativement précaire, hein. On va atterrir ou on va servir de panneau pour indiquer à l'artilleur s'il a mis dans le mille. Et ensuite, la radio est généralisée, notamment la télégraphie sans fil, hein, dont les techniques se perfectionnent pendant la guerre, va véritablement entrer en jeu. Et à partir de la fin 1915, on a les radios qui sont généralisées dans la plupart des avions, même si les techniques restent relativement rudimentaires. Donc, voilà pour le premier usage de l'aviation. Et se développe ensuite, dès la fin 1914, un autre usage plus offensif, celui du bombardement. Et l'aviation de bombardement trouve sa naissance directement dans la Première Guerre mondiale, avec d'abord le largage de fléchettes et de bombes, hein, donc des petites fléchettes dont on pense qu'elles peuvent toucher les hommes au sol. En réalité, l'impact est relativement faible, hein, on le comprend bien, mais ce sont des expériences qui sont menées pendant la guerre, des bombes dont le volume va augmenter au fur et à mesure de la guerre, d'abord de jour, hein, pour des bombardements qui suscitent l'enthousiasme de l'état-major, indépendamment de leurs résultats, puis de nuit, avec le développement, hein, de projecteurs sous les avions et des défenses antiaériennes, évidemment pour contrer ces avions de bombardement qui vont viser des objectifs stratégiques comme les gares, les industries essentielles et des obus, hein, qui vont, dès la fin de la guerre, frôler les 20 kilos. On comprend donc la difficulté, hein, pour ces aviateurs lancés dans la guerre, de ce travail de bombardement, la rudesse des conditions de cette guerre. L'aviation de bombardement, elle est utile à double titre. On pense qu'elle peut détruire complètement et anéantir complètement des adversaires, et en même temps qu'elle a un impact moral très fort. Mais ça permet aussi, en retour, pour la propagande, de dénoncer les exactions de l'adversaire, et notamment lorsque ces bombes touchent des civils. Alors c'est vrai des deux côtés, hein, ça va être vrai pour les Français à Fribourg-en-Brisgau, mais aussi pour les Allemands, à Folkestone en 1917, on va avoir des civils, les premiers civils, qui vont être touchés par ces bombardements aériens, à une échelle sans commune mesure, cependant, avec la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Enfin, après cette évolution, hein, de l'aviation de reconnaissance à l'aviation de bombardement, se met en place l'aviation de chasse qui trouve son origine dans cette guerre. Prévue dès novembre 14 côté français, elle est mise en place plus lentement dans les années qui suivent, notamment par la commande d'avions plus maniables et plus rapides qui permettent l'attaque directe d'avions adverses pour dégager le ciel. Et en France, hein, c'est véritablement la bataille de Verdun, et que c'est dans le contexte de cette bataille de Verdun que se met en place l'aviation de chasse, avec l'organisation de groupes de chasse autonomes qui vont permettre de dégager le ciel et ainsi de rendre l'artillerie adverse aveugle, puisque c'est ça l'enjeu aussi de cette aviation de chasse, c'est d'éviter que l'artillerie adverse puisse viser précisément des objectifs stratégiques. Et dans cette perspective, hein, elle s'est avérée très efficace, puisque mise en place dès mars 1916, hein, dès début mars 1916, à la fin du mois, l'armée française a repris, hein, pour ce qui est du ciel, l'avantage très net. Ça empêche les Allemands de passer les lignes françaises, et en même temps, cette aviation de chasse peut servir exceptionnellement à protéger des avions de reconnaissance ou de bombardement pour des missions stratégiques. Mais sa fonction première, c'est véritablement d'agresser l'adversaire dans le ciel. Donc, cette aviation en général, dans la Première Guerre, elle est un symbole de la modernité de la guerre. Elle touche tous les fronts, que ce soit à l'est, à l'ouest et même sur les mers et dans les colonies. Elle concerne l'ensemble de la France, les usines dans le sud-ouest impliquent toute la population. Il y a des écoles à Pau, à Cazaux près de Bordeaux ou à Bron près de Lyon. En Bretagne, la guerre aéronavale a lieu, hein. des observateurs sur tout le trait de côte. Donc véritablement, tout le territoire est concerné. Ce n'est pas seulement un phénomène de front. C'est un des symboles de la guerre mécanique, ce que certains ont appelé la guerre des moteurs, puisque c'est aussi dans cette guerre qu'on voit généraliser l'usage des automobiles, des camions, des motos et même des premiers chars à la fin de la guerre, qui répondent aux sous-marins et à toutes les armes produites en masse dans les usines, que ce soit les obus ou les mines sous-marines. Globalement, c'est une machine industrielle qui se met en place avec des avions emblématiques, et on va en citer qu'un seul puisque ça n'a pas forcément grand intérêt. C'est le SPAD 13, conçu par Louis Béchereau, qui, pour la compagnie des Pères du Saint, qui dépasse les 200 km/h à la fin du conflit. Il est mis en service fin mai 1917, et qui donc peut atteindre 200 km/h en vitesse de pointe, doublant donc dans cette guerre la vitesse originale des avions. Et donc on voit, on mesure ici les progrès très rapides de la recherche dans ce contexte de guerre, avec la production en série d'avions qui répondent à la massification des combats aériens. Quand autrefois, avant la guerre, on était encore dans une dimension relativement artisanale, où vraiment chaque avion était une construction originale, à la fin de la guerre, on peut véritablement parler de production en série. Donc, dans cette perspective, là encore, la Première Guerre mondiale est fondatrice. Question essentielle, qui sont ces hommes dans cette guerre aérienne? D'abord, qui sont les pilotes? Si on voulait établir un profil type du pilote, on peut dire que ce sont des jeunes hommes, sportifs. La plupart, en tout cas, ont au moins pratiqué un sport avant la guerre, souvent le rugby. Ou le cheval, l'équitation, puisque beaucoup sont issus aussi de la cavalerie. L'aviateur type, c'est un citadin d'extraction relativement aisée quand même, encore très jeune et entré très jeune du coup dans l'aviation, puisque à peu près les deux tiers des hommes qui entrent dans l'aviation ont moins de 25 ans. Donc c'est véritablement une guerre d'hommes jeunes que l'on comprend par le côté physique du vol, la rudesse des conditions à haute altitude. Il faut pouvoir résister au froid et en même temps être capable de tenir le choc de plusieurs changements d'altitude en une même journée. Et donc, cette jeunesse des hommes justifie aussi que ce soit pour l'essentiel des célibataires, puisque plus de 80% d'entre eux ne sont pas mariés au moment de la guerre. Cependant, ce profil type, il évolue progressivement en fonction de la guerre, de l'avancée de la guerre, puisque le recrutement s'élargit avec le temps. La massification des combats impose évidemment d'aller chercher plus large. Et donc, la cavalerie qui avait dans un premier temps, vu le reversement de beaucoup de ses membres dans l'aviation au début de la guerre, va perdre du terrain, entre guillemets, et ce sont après dans l'artillerie et dans le génie que vont être cherchés les nouveaux aviateurs dans les deux dernières années du conflit, ce qui se justifie par la dimension technique de cette arme dans la guerre. La motivation de ces hommes, elles sont variées. L'avancement est plus rapide dans l'aviation, c'est un fait connu, et cela peut attirer certains hommes, d'autant que la prime accordée au personnel navigant est supérieure. Donc ça peut être une motivation, mais également le prestige de l'arme est un facteur déterminant. Les aviateurs imaginez, comme des fous volants, des sportifs, des héros, vont attirer d'autres hommes à eux. Et les volontaires sont plus nombreux que le nombre d'admis dans l'aviation, évidemment. Et surtout, le facteur déterminant, ce sont les conditions de vie réputées meilleures et qui vont du coup susciter un rapport ambigu avec les fantassins, parfois prompt à souligner les absences des pilotes dans les airs, et à envier la qualité de vie de ces protecteurs du ciel. Les dangers du vol semblent pourtant perçus par les fantassins et les pilotes eux-mêmes, puisque Nissim de Camondo, par exemple, qui a d'abord été dans la cavalerie et a servi dans les tranchées ensuite, parle de l'aviation comme d'une mangeuse d'hommes au moment où il intègre l'aviation et explique que peut-être demain je ne serai plus. Il l'écrit dans une lettre à sa petite amie et on voit là toutes les représentations chargées de romantisme et mêlées à une appréhension de la mort et en même temps une soif d'action dans ce genre de représentation. Et en fait, c'est bien ça que vont chercher ces jeunes hommes dans la guerre. La majorité d'entre eux, ce sont des officiers ou des sous-officiers. Plus de la moitié sont en fait soit officiers, soit sous-officiers. Et donc, on a un renversement exceptionnel de la hiérarchie dans cette guerre. On a plus de gradés que d'hommes du rang, d'hommes de troupes, ce qui se justifie par une formation supérieure qui est nécessaire pour intégrer une arme technique, notamment si vous êtes observateur, puisqu'il faut savoir faire des relevés de cartes, prendre des photographies. Et c'est d'autant plus vrai que quand vous intégrez l'aviation, vous bénéficiez d'une formation qui est longue et qui va justifier votre promotion. À partir du moment où vous intégrez l'aviation, vous avez entre 2 et 3 mois dans une école d'aviation, vous apprenez à piloter, si vous êtes affecté en tant que pilote, vous apprenez à piloter pendant 2-3 mois pour obtenir votre brevet d'aviateur qui vous vaut automatiquement le grade de caporal si vous réussissez. Donc, à partir du moment où vous réussissez cette épreuve, vous obtenez un galon. Puis suivent encore des cours de perfectionnement entre 1 et 2 mois qui vont encore allonger votre temps de formation, votre temps passé éloigné du front et justifier donc une compétence supérieure. Mais ça aussi, ça a un coût. Et c'est aussi pour ça que la sélection à l'entrée des écoles d'aviation est importante. Un bon exemple de parcours d'aviateur dans cette guerre, c'est Jean Romaté, qui fait ses études à Saint-Cyr avant l'entrée en guerre et qui se trouve donc officier de cavalerie dans les 2 premières années de la guerre. Il parvient à se faire transférer dans l'aviation en tant qu'observateur fin 1916, donc là il bénéficie déjà d'un mois de formation pour devenir observateur et intègre donc une escadrille d'observation en 1917. Il fait son service dans cette escadrille d'observation avant d'obtenir d'être affecté élève pilote début septembre 1917 et passe donc encore 3 mois à l'école d'Étampes, puis 2 semaines à celle de Pau et encore 2 semaines à celle de Cazaux. Donc là, on voit le caractère aléatoire d'une carrière dans cette arme. Et puisque donc Jean Romaté, qui a donc intégré l'aviation fin 1916, n'arrive en escadrille en tant que pilote que fin février 1918, plus de 5 mois après le début de sa formation de pilote. Donc on voit déjà le caractère particulier de ces pilotes qui nous amène à nous interroger sur quelle est leur expérience combattante. On comprend bien que voler dans cette guerre aérienne, c'est très différent que d'être un poilu dans les tranchées soumis à la boue continuelle. Donc, l'expérience de la guerre de ces aviateurs, elle est foncièrement différente de celle des fantassins. En plus d'une formation très longue, ils suivent de longs temps d'attente près des terrains d'aviation. Le temps passé dans les airs, in fine, est relativement faible et on a un contraste d'autant plus important entre l'attente et l'intensité des combats de vols qui dépassent rarement les 2 heures. Donc une dilatation du temps très importante dans cette guerre, une forte intensité des temps de vol avec un danger extrême puisque au feu de l'ennemi, qui peut venir du sol ou des airs, va s'ajouter l'appréhension et les risques de la panne mécanique ou de l'incident météo qui peuvent à tout moment rompre l'avion. Puisque au début de la guerre, les appareils sont encore relativement fragiles et même si les techniques s'améliorent au fil de la guerre, les accidents restent encore nombreux en 1918 et ça justifie, c'est ce qui explique aussi que le taux de mortalité dans l'aviation est plus fort que celui dans l'infanterie. On est à peu près à 25% dans l'aviation quand on est à 20%, entre 20 et 22 au sol. C'est d'autant plus vrai que côté français, on n'a pas de parachute. Le haut commandement refuse de doter ses pilotes de parachute, craignant que ceux-ci esquivent le combat, à l'inverse des Allemands qui, eux, vont doter leurs pilotes de parachute. Donc pour le coup, si vous avez une panne mécanique, vous êtes sûr de vous écraser. S'ajoute encore à cela la rudesse des conditions climatiques, puisque à haute altitude, il fait parfois très froid, les engelures sont très fréquentes, on les retrouve dans la plupart des récits de guerre de cette époque. Et donc un stress physique de la répétition des efforts qui vient encore ajouter à cela, et donc une rudesse de cette guerre qui va atteindre profondément les organismes et Donc c'est pour ça aussi qu'on sélectionne ces hommes sur leur physique, c'est parce que c'est une guerre qui est très intense, hein, indépendamment des conditions de vie meilleures. Un exemple de cela, c'est Marcel Vialet, qui est un as de l'aviation pendant la guerre, qui s'écrase 3 fois pendant la guerre, 3 fois il en réchappe, mais sa troisième blessure l'atteint au poumon gauche, il s'en remet, cependant il va rechuter durablement dans les mois qui suivent en raison de la répétition des vols à haute altitude et finira par mourir hein, des suites de cette blessure dans un sanatorium de Briançon en 1925. Juste pour montrer à quel point cette guerre a pu éprouver certains organismes, c'est un exemple parmi d'autres, hein, on pourrait les énumérer à foison. Donc cette image hein, d'une guerre propre, sans difficulté, qui a pu perdurer ensuite, reste à nuancer. Il est vrai cependant que les conditions de vie dans l'aviation sont bien meilleures. Louis Le Landais, qui est d'abord passé dans l'infanterie coloniale et qui intègre l'aviation ensuite, le dit assez nettement. Il y avait la guerre et il y avait l'aviation. En effet, ces hommes vivent sur des terrains d'aviation, derrière les tranchées, assez éloignés du front. Ils ne sont donc pas soumis en permanence à l'artillerie ennemie, même si des bombardements arrivent. Et ils peuvent surtout s'abriter et dormir dans des cahutes, alors plus ou moins rudimentaires, mais généralement assez confortables, ce que ne peuvent pas toujours les soldats dans les tranchées. Et puis, autre facteur déterminant, l'aviation est très dépendante des conditions météo, donc un jour où il y a du brouillard, où il pleut, vous ne pouvez pas voler. Donc cela ajoute encore au temps d'attente au bord des terrains, qu'agrémentent plus ou moins festivement ces hommes, il est vrai. Beaucoup sont d'extraction aisée, donc peuvent se faire envoyer des colis agréables, hein. On parle souvent du champagne dans les récits de pilotes, mais également des virées en ville qui sont permises lorsque le vol n'est pas possible. Et cela se justifie aussi par une discipline un peu plus relâchée, plus souple dans ces escadrilles, qui va faire hein, que ces hommes vont bénéficier de certaines largesses. Cela aussi est justifié par la création d'une identité commune, ce que d'aucuns ont appelé l'esprit aviateur, qui va permettre à l'aviation de se constituer en tant qu'arme autonome, puisque au début de la guerre, ce n'est qu'une extension d'autres armes et elle n'est pas une arme en soi. Elle ne devient cinquième arme autonome que pendant la guerre et en France, hein, il faut attendre 1933 pour voir la création de l'armée de l'air. Donc, face à cette absence de reconnaissance institutionnelle, les aviateurs se créent une identité et mettent en scène une distinction d'eux-mêmes avec des symboles communs qui se retrouvent par exemple avec les ailes au col ou des insignes de pilote, une canne, une tenue en relation avec une autorité un peu plus relâchée. On va porter des foulards, pas forcément boutonner tous les vestons de sa veste. Et ainsi, hein, créer une identité commune, un esprit aviateur qui permet à ces hommes de se distinguer, de se singulariser du reste de la troupe. Cela se retrouve aussi avec des mascottes que l'on prend hein, et des effigies que l'on va mettre sur les flancs des avions. Alors la plus emblématique côté français, c'est l'escadrille des cigognes, mais on retrouve aussi par exemple les hirondelles ou une lionne hein, qui devient la mascotte de l'escadrille Lafayette, escadrille Lafayette essentiellement composée de volontaires américains avant l'entrée en guerre des États-Unis. Et ces photos, elles circulent dans toute la presse à cette époque. Elles permettent aux aviateurs hein, de se former des étendards qui correspondent bien à ces chevaliers du ciel tant mis en scène. Donc ça renvoie tout cela aussi à un certain élitisme, hein, puisque en se distinguant, on se révèle supérieur aux autres dans une identité aviatrice commune. Ces escadrilles, elles sont donc constituées autour des pilotes, autour des aviateurs, mais ce ne sont pas les seuls aviateurs et ce ne sont surtout pas les seuls hommes de cette escadrille, loin de là. Et d'autres personnes fréquentent les terrains d'aviation, et ce sont les aviateurs restent le plus souvent hein, des taxis pour les observateurs ou pour des missions spéciales, des missions de bombardement. Or, évidemment, le cas très particulier de la chasse, où là, le pilote peut se retrouver seul dans son avion. Donc, qui sont les autres aviateurs ? Côté français, on a sur 90 000 personnes du personnel militaire, seulement 16 800 pilotes et environ un peu plus de 2000 observateurs. Ce qui veut dire qu'il nous reste 70 000 personnes qui font partie du personnel de l'aéronautique militaire, mais qui ne sont pas aviateurs. Alors, dans les airs, ceux qui sont les mieux intégrés à l'escadrille, qui côtoient les pilotes parce qu'ils participent à cette guerre aérienne à leur côté et ils font la guerre avec les pilotes, ce sont d'abord les observateurs. Les observateurs, ils ne pilotent pas, ils prennent les relevés derrière le pilote, ils sont rodés au calcul et à la lecture de cartes, et ils vont prendre souvent des photos aériennes qui vont permettre d'informer l'état-major et l'infanterie sur les mouvements des troupes. Ils vont aussi pouvoir repérer les batteries camouflées et vont donc fournir des informations à l'état-major. Ils ne sont pas eux-mêmes pilotes et souvent aspirent à le devenir. Plusieurs observateurs deviennent pilotes au terme de quelques années dans des escadrilles, puisqu'ils apprennent à piloter aux côtés des pilotes. Également, avec les aviateurs dans les airs, on retrouve les mitrailleurs, qui sont chargés d'abattre l'ennemi en vol et qui doivent être capables de gérer à la fois la vitesse de l'avion, donc l'avion sur lequel ils sont installés, mais aussi l'avion ennemi qu'ils veulent abattre. Donc cela nécessite évidemment une précision de tir importante et eux-mêmes vont devoir gérer ces 40 balles dans un chargeur de mitrailleur Hotchkiss, donc d'où l'importance d'être très précis dans les airs. Il y a une circulation entre ces fonctions d'observateur, de mitrailleur, de pilote, puisque plusieurs pilotes ont donc commencé en tant qu'observateur ou mécanicien au début de la guerre, avant de devenir eux-mêmes pilotes. Au sol, en relation directe avec ces pilotes, avec une relation plus ambiguë entre collaboration et distance maintenue, on retrouve le personnel au sol, et notamment les mécaniciens, qui ont été souvent mécaniciens ou électriciens avant la guerre et qui vont donc permettre d'entretenir les avions, éventuellement de les démonter. On retrouve aussi tous les conducteurs d'automobiles et plus généralement les manutentionnaires qui vont gérer la logistique autour du terrain d'aviation. Et ça, en fait, c'est l'essentiel du personnel aéronautique qui met en place les conditions favorables aux pilotes dans cette guerre pour mener cette guerre aérienne, avec les constructeurs et les ingénieurs qui prennent les informations auprès des aviateurs pour essayer d'apporter des améliorations aux avions et ainsi de gagner la guerre, mais sur le plan mécanique. Donc c'est aussi à travers eux que les progrès techniques sont réalisés à cette époque. Il y a également les autres hommes de l'air, puisque au-delà des seuls aviateurs de l'armée de terre, on retrouve également ceux de l'aéronaval qui, eux, vont surveiller les mers sur des hydravions et notamment s'avérer essentiels dans la surveillance sous-marine au moment où les U-boats allemands commencent à se développer. Et c'est valable pour les aviateurs, mais aussi pour les plus méconnus de ces hommes de l'air de la Première Guerre mondiale, ce sont les aérostiers qui, eux, sont sur des ballons d'observation et qui s'avèrent essentiels dans cette guerre pour surveiller à la fois les tranchées adverses, mais aussi les littoraux et donc les fonds marins. Je les évoque rapidement parce que on sait assez peu de choses finalement sur eux, alors même que leur guerre est extrêmement dangereuse, peut-être même plus que celle des aviateurs, puisqu'ils constituent des cibles fixes pour les chasseurs adverses et ils sont très vulnérables aux éléments. À titre d'exemple, un orage du 5 mai 1916 arrache 24 ballons côté français, dont 21 vont être faits prisonniers côté allemand. Finalement, c'est un stress permanent pour ces aérostiers qui se retrouvent dans une position de vulnérabilité extrême. Alors, se pose la question, pourquoi avons-nous retenu cette image des Chevaliers du Ciel et seulement cette image des Chevaliers du Ciel aujourd'hui ? Pourquoi ces aviateurs sont-ils les instruments du rêve en cette Première Guerre mondiale ? Ce sont d'abord les instruments de la propagande dans le contexte de la guerre qui répondent directement à un succès populaire très important, puisque nous avons vu que les sportifs étaient admirés déjà avant 1914 et le sont donc d'autant plus après 1914, dans une guerre impersonnelle où les hommes meurent par milliers en anonyme. La publication des noms à partir de 1915 va renforcer cela et montre la volonté de l'état-major de communiquer sur ces hommes. Ils permettent de mettre un visage sur la victoire et les nombreuses photographies qui circulent dans les journaux, alors il y a même des journaux spécialisés qui sont créés autour de la guerre aérienne, vont permettre de diffuser leur image et de les rendre notoirement connues. On a par exemple en France la guerre aérienne illustrée qui est fondée en 1916 et on retrouve en Allemagne la Luftwaffe, mais d'autres exemples de journaux pourraient être trouvés. Ces jeunes hommes, on les comprend, ils permettent de positiver la guerre alors que les soldats meurent par milliers dans les tranchées. Ceux-là, les nouveaux héros, ils sont jeunes, beaux, préservés de la boue, ils permettent de montrer que la victoire française se fait sans problème. Ils sont fortement héroïsés et en même temps permettent d'associer le romantisme du vol à un nouvel héroïsme réactualisant le mythe chevaleresque de ces chevaliers du ciel montés sur de nouveaux destriers, les avions, et qui vont se battre en duel avec d'autres adversaires, leurs égaux, d'autres chevaliers du ciel qui ne font que servir leur patrie. En France, la figure de Georges Guynemer permet particulièrement d'illustrer cette guerre propre. C'est un jeune homme qui a 19 ans à l'entrée en guerre, qui est recalé deux fois à la conscription, mais qui parvient quand même à se faire enrôler grâce aux relations de sa famille. Il devient un symbole de cette pureté juvénile, anobli par les airs, parvenant à battre 53 avions homologués officiellement, et il devient véritablement une star à cette époque. Il est couvert de médailles, obtient plus d'une vingtaine de citations à l'ordre de l'armée quand c'est un honneur exceptionnel, et à sa mort le 11 septembre 1917, peu de temps après, le Parlement vote l'inscription de son nom au Panthéon, et la devise, sa dernière citation, « Mort dans un ciel de gloire », est devenue emblématique de ce qu'était la guerre aérienne à cette époque. À cela s'ajoute encore le fait qu'elle permet de mettre en scène une continuité de l'aviation, puisque ce chevalier du ciel est supposé vengé par un autre chevalier du ciel, René Fonck, qui aurait abattu le meurtrier de Guynemer. Et René Fonck permet là aussi de diffuser cette image d'invincibilité de ses combattants dans la guerre. Une invincibilité qui contraste avec le taux de mortalité plus élevé dans l'aviation. Mais la destruction de l'adversaire, mise en image, elle est incontestable. Un avion, quand il est détruit, on le voit brûler, on peut le prendre en photo, on peut prendre l'aviateur devant les décombres de cet avion et on peut surtout compter les points, savoir qui a tué qui, quand, et ça permet de présenter sur une base supposée objective les meilleurs. Puisque en dénombrant les victoires, on peut établir un palmarès et là on retrouve avec la tenue d'un classement des meilleurs pilotes la continuation de ce sport d'avant-guerre qui ici est réinterprété dans le contexte de la guerre. On réintroduit du sport là où il n'y en a plus forcément. Donc l'aviation militaire, elle est entendue comme la continuation d'un sport. On parle de record, de performance. Quand un aviateur a abattu trois adversaires dans la même journée, on parle d'un triplé. René Fonck, le 6 mai 18, quand il abat six adversaires dans la même journée, on parle d'un sextuplé qui fait presque la couverture de tous les journaux à l'époque. Et on va donc établir un palmarès des meilleurs pilotes que l'on va surnommer les As, pour bien signifier leur maîtrise, leur maestria dans l'air. À partir du moment où vous avez tué 5 pilotes adverses, vous devenez un as. Alors, même s'il y a des nuances nationales, en France, on décide de faire passer à 10 adversaires cette barre symbolique pour obtenir le titre d'as à partir de l'été 1917, parce que ça devient trop facile, selon le haut commandement, d'abattre 5 adversaires. En Allemagne, on reste à cinq adversaires. Au Royaume-Uni, le haut commandement se refuse à toute distinction entre ses pilotes. Donc là, c'est les journaux qui prennent le relais, hein, qui prennent le modèle, l'exemple français et allemand et qui tiennent ce palmarès. Donc on a véritablement la continuation d'un sport, hein, une compétition internationale qui est mise en place avec l'insistance sur des valeurs très sportives, de respect de l'adversaire, de fair play, hein, on est supposé égaux entre chevaliers dans ce duel aérien. Et on décerne donc le titre au meilleur des meilleurs, à l'as des as, hein, un titre particulier. Et donc à la fin de la guerre, c'est René Fonck, côté français, qui tient ce titre d'as des as avec 75 victoires homologuées par le haut commandement militaire. La figure de l'as, elle est donc emblématique de cette guerre aérienne et c'est elle véritablement qui structure cette image du chevalier du ciel. C'est eux qui entretiennent l'idée qu'un duel se joue dans les airs, face à face, et qui serait la dernière survivance d'une geste chevaleresque d'antan. Le chevalier du ciel, il développe hein, cette éthique nobiliaire, inspirée à la fois de l'éthos aristocratique hein, dont sont issus l'aristocratie dont sont issus plusieurs pilotes, avec également la réminiscence de valeurs guerrières médiévales, l'insistance toujours sur la vaillance, sur l'humilité du chevalier face à des exploits héroïques, et donc l'égalité entre ces personnes hein, d'une même extraction qui se sont révélés au-dessus de la masse, dans les airs, puisqu'il y a cette idée hein, que le pilote, aux commandes de son avion, maîtrise son destin et ne doit qu'à lui-même d'avoir survécu et d'avoir vaincu. Il y a aussi cette idée forte que ce sont les âmes fortes qui se révèlent dans les airs. Et donc des pilotes hein, qui se forgent dans l'action. Il y a également, du coup, avec cette prédestination, vient un côté quasiment religieux, hein. On a des pilotes quasi christiques, héroïques, qui donc ont cette image également de la pureté du pré-chevalier, sans peur et sans reproche, dont Georges Guynemer en France est véritablement l'incarnation. Hein. Et en Italie, ce sont Baracca, en Allemagne, Manfred von Richthofen, ou en Angleterre, Alfred Ball. C'est véritablement un phénomène européen qui se met en place avec une circulation des représentations à travers les différents journaux et organisé hein, plus ou moins par la propagande. Mais le succès populaire est tel que la propagande n'a même pas forcément à insister énormément dessus. Il suffit juste de délivrer les instruments, c'est-à-dire compter les victoires pour que le reste suive. Et découle naturellement. Et cette idée des chevaliers du ciel, elle est omniprésente des récits pendant la guerre, de ces duels supposés entre chevaliers, alors même que la réalité diffère quasiment dès les débuts des combats. Dès l'origine, hein, le commandant de Rose, qui organise l'aviation militaire côté français, il recommande de frapper l'adversaire par surprise, lancé à pleine vitesse depuis des nuages ou dans le dos d'un adversaire plus lent que soi. Hein. C'est pour ça qu'il commande des avions plus rapides. Donc, prendre par surprise l'adversaire et le tirer dans le dos. Hein, ce qui est tout à fait opposé à tout principe chevaleresque. René Fonck, côté français, devient un symbole en France de cette technique qu'il appelle de l'oiseau de proie, qui se met dans l'axe du soleil ou derrière un nuage pour fondre sur son adversaire et ne lui laisser absolument aucune chance. Et on comprend bien l'idée, hein, c'est le principe dans cette guerre de tuer l'adversaire. Mais donc là, on constate hein, très rapidement un décalage entre la mise en récit de cette guerre et la réalité des combats dans la guerre. Cela d'autant plus fortement que les organisations se développent, hein, les escadrilles se généralisent et on va également mettre au point la formation en V que l'on connaît bien aujourd'hui. Pendant cette guerre, hein, les vols en groupe qui vont permettre aux avions de se soutenir et de ne pas laisser d'angle mort. Et à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec plusieurs avions attaquant, donc plusieurs pilotes de chasse attaquant un avion de reconnaissance ou un bombardier ou un ballon d'observation qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'eux pour se défendre. Et donc, toute l'image du chevalier du ciel en duel ne tient absolument pas. In fine, ce sont quelques hommes hyper médiatisés. À la fin de la guerre, côté français, on en recense 76. C'est le haut commandement militaire qui fixe les noms. Donc le haut commandement militaire dit 76 hommes, même si plus tard on en a recensé un peu moins de 200. Mais ce sont ces quelques hommes, hein, ces quelques 76 hommes, qui reformulent complètement l'image du pilote de chasse et qui vont voir plus généralement. Hein, qui vont permettre plus généralement de reformuler l'image de l'aviateur après-guerre, d'un aventurier viril, romantique, qui donc se fixe après la Première Guerre mondiale. Puisqu'après la Première Guerre mondiale, il y a une abondante littérature sur l'aviation qui se met en place. Il y a un style littéraire autonome véritablement qui naît avec la prise de position d'anciens aviateurs comme Joseph Kessel, par exemple, qui devient emblématique de cette littérature aéronautique, qui raconte la guerre aérienne toujours sur les mêmes principes chevaleresques hérités de la Première Guerre mondiale. Donc là, on a véritablement, à travers cette littérature, la fixation du mythe dans l'entre-deux-guerres, avec toujours ces mêmes récits héroïques plus ou moins normés, avec toujours les mêmes ressorts. On commence par une introduction qui mêle prédestination à initiation à la chose aérienne, le premier combat, qui est une étape fondatrice de cette guerre aérienne. La perte d'un camarade qui va rappeler le héros à sa dimension mortelle, mais en même temps stimuler une vengeance essentielle. Et les joies du vol et de l'accumulation des victoires qui ne font que mieux diriger le pilote vers sa fin plus ou moins héroïque sur ciel de gloire. Et un exemple emblématique de cela, hein, ce sont les ouvrages de Jacques Mortane, qui est un journaliste sportif qui se spécialise dans l'aviation dès avant la guerre et qui va écrire une bonne quinzaine d'ouvrages, hein, sur cette guerre aérienne, associée le plus souvent aux nouvelles épopées de l'air, celles des grands raids et de l'aéropostale qui ont lieu dans ces années 20 et dans ces années 30 et qui vont opérer une fusion entre cette image du chevalier du ciel et plus généralement celle de l'aviateur, celle du pilote, héros romantique et parfois romancier dans cet entre-deux-guerres. Et c'est paradoxal, puisque parallèlement à cela, persiste une image plus négative, une image beaucoup plus en demi-teinte de l'aviateur terreur, capable de passer sans difficulté les frontières pour aller bombarder les nations pacifiques, en déversant des flots de bombes et de gaz plus ou moins meurtriers sur les grandes capitales. Et donc on a une coexistence à ce moment-là, hein, d'un idéal chevaleresque maintenu par ces récits de la guerre et d'une image très négative qui se distingue cependant en cela que le pilote, le chevalier du ciel, a toujours lui un visage, a toujours une personnalité, quand ce bombardier n'est justement représenté que comme bombardier, comme avion, comme machine, hein, une sorte de moloch destructeur qui ne répond pas directement à ce chevalier. Et c'est de cette manière, hein, qu'est dissocié le versant positif de l'aviateur avec son pendant négatif, celui du destructeur qui pourtant, hein, va s'avérer omniprésent dans la Seconde Guerre mondiale, qui va voir véritablement la massification des combats. En conclusion, on peut voir, hein, on peut se rappeler que l'aviation militaire s'est structurée progressivement pendant la Première Guerre mondiale. Cette guerre, elle a un impact important dans les développements de l'aviation. C'est elle qui véritablement lance l'aviation commerciale, puisque les pilotes qui ont appris à voler pendant la guerre, ils sont des milliers à la fin de la guerre à se retrouver entre guillemets sur le carreau, et bien ce sont les mêmes pilotes qui vont être les premiers à mener ces vols de l'aéropostale, à animer les aéroclubs locaux et à diffuser plus généralement l'aviation dans tous les cercles aéronautiques qui fleurissent dans les années 20. Ce sont des figures qui restent romantiques, hein, avec une image forte d'homme viril, masculin, un idéal quasi universel d'aviateur qui naît à ce moment-là et qui est fixé par les arts. J'ai parlé de Joseph Kessel tout à l'heure pour la littérature, mais on peut penser aussi à Jean Renoir pour le cinéma, lui-même pilote de guerre, Et ce n'est pas un hasard si, dans La Grande Illusion en 1937, Boieldieu est un aviateur, puisqu'il prend modèle directement sur un autre pilote de guerre, Armand Pinsard, qui a été un as très célèbre pendant la Première Guerre mondiale. C'est plus généralement un moment d'acculturation des populations à l'aviation. On a dans toutes les gares pendant la Première Guerre mondiale, pardon, on a des affiches qui circulent, qui permettent au public d'identifier et d'apprendre à reconnaître les avions alliés des avions ennemis. Et on a plus généralement une culture de l'air qui s'imprègne dans la société, qui est diffusée très largement et qui va faire qu'à partir de l'entre-deux-guerres, le moyen aérien est pleinement intégré dans l'imaginaire mental des sociétés.